Osmose.
Osmose Radio.
Érosmose. Érotisme, coquinerie, sexualité sur Osmose Radio.
Salut les coquinous, vous êtes branchés sur Osmose Radio pour cette fin d'après-midi, cette veille de week-end printanière. Alors du coup, j'imagine que vous avez les hormones qui frétillent pour diverses raisons. Eh bien, c'est une excellente idée. Vous êtes sur la bonne station pour ça, puisque on vous accueille dans Érosmose, moi-même, Stéphane, ainsi que cette charmante dame qui, sous la Grèce antique, aurait été une prêtresse d'Aphrodite. Et elle vient nous raconter des coquineries à l'antenne, maintenant qu'on est au 21e siècle. Bonjour Laurence.
Bonjour Stéphane, bonjour les coquinous, bonjour le régisseur, hein, bien-aimé.
Ainsi que Lucas qui laisse ses deux mains bien en évidence sur sa régie, vu que des fois quand il les laisse un peu dessous la table, on se demande ce qu'il fait,
oui,
le coquinou justement. Haha, ça y est. Et voilà, donc vous pouvez nous retrouver en direct. Si vous nous écoutez ce vendredi 25 mai en direct, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Et de toute manière, vous pourrez nous retrouver en podcast incessamment sous peu sur le site d'Osmose Radio. Pour le moment, chers amis, on va commencer en musique avec un morceau que l'on pourrait dédicacer à Harvey Weinstein, qui a été jugé aujourd'hui pour les différentes attouchements sexuels dont il s'est rendu coupable. Et bah justement, Harvey Weinstein, ce morceau-là, c'est pour toi tout de suite. Comics, touche pas mon sexe.
Qu'un prétexte, petite fille, laisse-moi planer.
On pourra se faire des gousis-gousis, mais on s'en fait déjà, chers amis, vous, Laurence, moi, Lucas et Osmose Radio, où vous nous rejoignez à l'instant ce vendredi 25 mai. Et à l'instant, on écoutait Comics, un groupe du début des années 80, hein, la scène française des jeunes gens modernes, comme on les appelait à l'époque, au début des années 80, avec les synthés de l'époque, mais qu'on écoute encore avec plaisir. Et ce morceau, Touche pas mon sexe, en introduction de cette émission consacrée à la sexualité, l'érotisme, les coquineries et toutes ces sortes de choses, n'est-ce pas, Laurence?
Oh ben, tu m'étonnes, Yvonne. Alors, touche pas mon sexe, quand même, dans une émission érotique, on a envie de vous dire, vous pouvez mettre la forme négative, la forme affirmative, touche mon sexe, on est là pour ça.
Voilà.
Pas dans le studio, non, mais attendez.
On va attendre d'être rentré à la maison.
Quand même. Non, mais ça a amené la chronique suivante, parce que Trinidad, notre amie comédienne, humoriste et aussi auteure de chroniques dans la radio Copine Sud Radio, qui me donne autorisation de piquer ses chroniques. Et j'en ai piqué une parce qu'on a des auditeurs canadiens. Et puis, tu vas voir, ça fait bien le lien. Oui, tu vas voir. Alors, ça s'appelle Célibataire canadien. J'y vais. Dans les sites de rencontres, on connaissait Mythic, Tinder ou Adopte un mec. Les Canadiens ont fait mieux. Loueuncamion.com. Une autre façon de culbuter, et dans culbuter, il y a buter. On pensait que le Canada était un pays paisible, surtout connu pour ses chanteurs à voix. Tous les Canadiens, toutes les Canadiennes vont pousser la chanson comme Céline Dion, tu vois. Eh bien non, ils n'ont pas que des Céline Dion ou des Isabelle Boulay, ils ont aussi des boulets tout court. Après le mal garou, voici le mal garé, Alec Mination, l'auteur taré de l'attentat du trottoir de Toronto. J'ai mis un peu de pour alléger le propos. Je me suis dit qu'il fallait quand même en parler, même si ça fait plus news que sexy, parce que je trouve que les médias ont un peu expédié l'événement. En même temps, il y avait des trucs plus importants que quelques femmes qui se font tuer, il en reste 3 milliards, alors que Macron aux États-Unis, l'accouchement de Kate Middleton, le mariage du prince Harry, ça, c'est des vrais sujets. Stone, le monde est Stone. Je vais passer Fabienne Thibault parce que quand même, j'en veux à toutes les femmes si je peux pas tirer mon coup. Alors évidemment, ce tueur et ses potes, incel pour involuntary celibate, traduction célibataire involontaire, ils sont persuadés qu'ils vont bien et que leur logique est la bonne. Nous, on a plutôt l'impression que des câbles se sont croisés dans le cerveau et qu'il faudrait revoir les branchements. Mais bon, c'est vrai que nous, les femmes, quand on se retrouve célibataire, on va plutôt changer de coiffure, faire un régime, du sport, une thérapie, puisque les psys disent que nos relations amoureuses seraient conditionnées par nos blessures. Alors, aïe, on veut comprendre ce qui cloche chez nous. On se met même à la place des hommes. Moi, si j'étais un homme, les incels, non. Pour eux, pas de relation, pas de blessure. S'ils n'ont pas de sexualité, c'est la faute des femmes. Donc, faut les tuer. Alors, je t'attendrai à la porte du garage, je foncerai dans ma superbe auto et je buterai tout ce qu'il y a sur mon passage. Pas de baratin, ni de fleurs, ni de resto. C'est sûr, en dehors de la location du camion, t'as pas de frais supplémentaires, c'est du all-inclusive. Faut peut-être leur dire qu'une fois qu'ils auront tué toutes les femmes, ils seront toujours célibataires, mais du coup, célibataires volontaires. Parce que se taper une morte, c'est sûr, elle est plus consentante, mais un peu rigide, voire frigide, si tu te la tapes à la morgue. Tu te rappelles quelque chose, ça, Stéphane?
J'ai rien dit.
Non. Et qu'ils risquent de se faire élargir le trou de balle en prison au lieu d'élargir leur vision du problème. Conclusion, quand le mal a mal, il ne trouve pas les mots pour traduire ses mots. J'ai compris tous tes mots, j'ai bien compris, merci. Tu m'écrases en auto si je tombe pas dans ton lit. Pour que je t'aime encore. C'est sûr que grandir dans un pays avec Céline Dion qui hurle depuis 30 ans, ça doit pas aider la connexion des neurones, mais voilà. Il pourrait s'inspirer des chanteurs canadiens. Regardez Rogue Voisine, quand il s'est retrouvé célibataire, seul sur le sable, les pieds dans l'eau. Il a chanté Hélène, il s'est fait des couilles en or et toutes les minettes étaient folles de lui. Garou, quand il s'est fait jeter par Esmeralda, il a chanté Belle. Il s'est fait des couilles en or et toutes les minettes étaient folles de lui. C'est ça qu'il leur faut à ces hommes, des modèles d'hommes qui leur expliquent que ça arrive à tous les hommes. Même Brad Pitt s'est fait larguer par Angelina Jolie. Il n'a pas buté pour autant. Parce que là, les gars, on ne va pas y arriver toute seule à changer la mentalité de vos potes. Il faut nous filer un coup de main, d'autant qu'ils en veulent aussi au Tchad. Pas le pays, hein. Les beaux gosses qui cartonnent avec les femmes, c'est comme ça qu'ils les appellent. Bon, alors après, c'est sûr, ces chanteurs à minettes, ils sont plutôt beaux gosses, mais ils se font quand même larguer. Mais prenez Jacques Brel, il n'avait pas la plastique de Rogue Voisine. Il a chanté « Ne me quitte pas, un carton !» Eh oui, messieurs, chanter ses émotions, ça rend beau, et non Rambo.
Oh, wow. Mais permets-moi de te contredire, hein, ma grande, parce
mais
que
vas-y,
Rock voisine, il chantait seul sur le sable, les yeux dans l'eau, pas les pieds dans l'eau.
Ben moi j'ai mis les. Ben remarque, c'était plus les yeux dans l'eau. Oui, il avait les pieds quand même.
Les pieds dans l'eau, c'est vous les Français quand vous allez à la plage l'été. Nous on va sur le golfe du Saint-Laurent, on a les baleines. Enfin, je parle des animaux, je parle pas de nos compatriotes.
Non, tabarnak, tu parles bien québécois. Hein,
pas vraiment, non. Si on a des auditeurs au Canada, ils doivent être en train de me maudire. C'est vrai que quand tu parles de louer un camion au Canada, c'est toujours plus sympathique que le mec qui avait loué un camion sur l'avenue de Nice il y a quelques années.
C'est vrai.
Mais la problématique était la même. Eh bien, justement, puisque c'est, comment elle s'appelait déjà, Lynn Renault qui chantait Ma cabane
oui.
au Canada, hein, les cabanes.
Bâties au fond des bois.
Elles sont construites assez loin les unes des autres, les cabanes de trappeurs. C'est pas forcément le cas partout, notamment dans les quartiers où il y a beaucoup de promiscuité. On a des voisins qui sont parfois un petit peu trop près de nous, ou en tout cas plus près qu'on ne le souhaiterait. Et cette promiscuité n'invite pas forcément à la gaudriole, et pourtant...
À l'érotisme
aujourd'hui,
puride, non ?
Ça peut arriver, mais justement, c'est le thème un peu aujourd'hui, puisqu'on est le vendredi 25 mai, et c'est la fête des voisins aujourd'hui. Alors, j'ai jamais trop compris le concept de cette célébration, mais après tout, pourquoi pas ? Et je me suis dit, pour être raccord avec le thème de la journée, que j'allais aborder un fantasme qui m'apparaît comme un fantasme vieux comme Hérode.
Oh,
c'est le fantasme de la petite voisine ou du petit voisin.
Ah oui.
Ah bah je vois que je parle avec une connaisseuse. Et donc ce que les anglo-saxons ont conceptualisé sous le titre, l'appellation Girl Next Door. Alors en fait, je disais que c'est un fantasme qui est vieux comme Hérode. Faut peut-être pas aller jusque-là quand même. En tout cas, dans ma recherche pour préparer cette chronique, je ne suis pas allé jusque-là. Mais il me semble quand même qu'à l'époque où les gens vivaient entassés les uns sur les autres, hein, alors quand c'était les pauvres, c'était dans des taudis, quand c'était les riches, c'était dans des châteaux, mais les gens vivaient quand même beaucoup plus les uns sur les autres et les uns au regard des autres. Peut-être que ce fantasme de la girl next door, du petit voisin qu'on épie comme ça et qu'on croise de temps en temps, ça vient plus quand la société s'est embourgeoisée, qu'il y a eu des petits appartements, des petits pavillons et que donc l'intimité a fait des progrès. Et du coup, bah, les fantasmes, on en fait aussi parce que ces gens qu'on croise dans la cage d'escalier auxquels on dit bonjour, finalement, une fois la porte close, on ne sait pas trop ce qu'ils font, même si on les épie. Alors, qu'est-ce donc ? Moi, je suis un garçon, donc je vais surtout parler du fantasme de la petite voisine, la girl next door, mais bien entendu, je parlerai de pair du boy next door et du petit voisin qui lui aussi est souvent très mignon et dont on aimerait en savoir un peu plus quand on est un tantinet indiscret, comme c'est le cas de beaucoup de Français, hein, disons-le sans détour. Alors, en fait, pour rejoindre ce concept anglo-saxon, en fait, c'est la fille sympa, ni nunuche, ni particulièrement chaudasse, qui est très très loin des clichés qu'on associe souvent à la féminité, la catin, la nunuche, la femme fatale et toutes ces sortes de choses. Non, en fait c'est une fille qui s'assume, qui est assez sympa, qui est ni particulièrement jolie mais qui est loin d'être moche, qui est pas super intelligente mais qui est tout de même loin d'être con, avec laquelle on peut avoir une conversation quand on la croise dans l'escalier tout simplement. En ce sens, elle se rapproche un peu par son côté innocente, d'ailleurs dans les publicités tout ça, elle souvent représentée sous les traits d'une petite blonde, les préjugés aidant, et du coup ben, elle se rapproche un peu du personnage de l'ingénu tel qu'on le voyait dans les romans sentimentaux du XVIIe et du XVIIIe siècle notamment, pas besoin d'aller jusqu'au Marquis de Sade hein, et ses charmantes ingénues Justine, tout ça, jusque là. Et donc finalement c'est la fille qu'on pourrait avoir envie de marier et de présenter à ses parents parce qu'elle a les qualités requises, en somme. Voilà. On pourrait se dire que ce personnage de femme assez banal ne prêterait pas tant au fantasme. Et pourtant, curieusement, eh bien c'est l'inverse qui se produit, puisque si le fantasme par rapport à la femme fatale, par exemple, est quelque chose qui va de soi, je pense à Rita Hayworth dans Gilda, par exemple,
ah, oui.
qui est vraiment, pour moi, personnifie le truc quand elle enlève
Put
ses gants.
Blame on me.
Tu le fais trop bien. Dommage que tu n'aies pas de gants aujourd'hui, parce que sinon tu les enlèverais.
Je recommencerai.
Eh bien, décidément, on prévoira des gants pour la prochaine émission, chers amis. Rassurez-vous, et vous pourrez voir Laurence se pâmer à la webcam. Mais pour le moment, eh bien, justement, ce fantasme de la girl next door a souvent été utilisé dans toutes les œuvres de l'industrie du divertissement et des arts en règle générale. Je parlais des romans du XVIIe et du XVIIIe siècle tout à l'heure, mais il y en a bien d'autres. Alors, le divertissement s'est approprié ce personnage un peu caricatural, mais qui se prête évidemment à la construction de scénarios faciles. Alors, je pense évidemment aux romans de gare, hein, Barbara Cartland, tout ça, enfin, et même bien avant, au XIXe siècle, on trouvait ce genre de choses. Je pense aux séries télé.
Je ris.
Oh oui, t'as sûrement de quoi dire sur le sujet. Je pense aussi aux séries, aux fameuses sitcoms. Ceux qui regardaient déjà la télé dans les années 90 se souviennent peut-être d'une série d'AB Productions là sur TF1 qui s'appelait Les filles d'à côté, avec voilà des charmantes nunuches, Hélène et les garçons, tout ça. Je pense aux comédies américaines, les fameux teen movies, là, les comédies pour adolescents, qui a eu donc dans les années 2000, il y a eu notamment American Pie, Girl Next Door, etc., qui utilisaient ce cliché de la petite voisine et qui en abusait même. Curieusement, on retrouve aussi ce personnage de la fille sympa avec qui on aime s'amuser dans la littérature pour enfants du 19e siècle, sachant que ça reste des jeux assez innocents à leur âge. Ça se complique un petit peu par la suite, mais par exemple, je pense à Tom Sawyer qui est souvent avec Becky et qui avec lesquels vit des aventures autour de la petite ville dans laquelle ils vivent tous deux. Et Mark Twain n'a jamais voulu écrire une version pour adulte de Tom Sawyer, mais va savoir ce que Becky et Tom et Huckleberry Finn auraient fait tous ensemble s'ils avaient eu quelques années de plus. Enfin bref, je pense aussi au Grand Maulne qui est ce personnage qui est aussi un garçon qui fascine le narrateur, mais qui est tout à fait le genre de gars qu'on pourrait croiser dans le quartier, par exemple. Et là, en poussant vraiment la comparaison très loin, mais tu me diras que j'en fais peut-être un peu trop, Laurence.
Quand tu réfléchis,
ben finalement, Julien Sorel dans le roman de Stendhal ou Madame Bovary dans le roman de Flaubert, c'est un peu ces personnages de boy next door, girl next door, le petit voisin sur lequel on fantasme un peu quelque part. Je sais pas. Ça peut s'entendre.
Oui,
comme ça.
Si. C'est bien vu. Je suis d'accord.
Enfin, cela n'engage que moi. Et donc, évidemment, tous ces clichés qui ont traversé la littérature, les arts, le cinéma et les séries télé, et j'en passe, bien entendu, ont été récupérés puisqu'ils sont, en termes de clichés, ils induisent le fantasme sur lequel ils sont basés. Et évidemment, c'est parfois un peu sulfureux. Et évidemment, ça a été récupéré tout ça par l'industrie du porno. Dans une démarche journalistique pour Osmose Radio, je suis allé vérifier sur les sites porno, moi-même, tout ça pour vous, chers amis, pour vous éclairer.
Uniquement pour éclairer nos auditeurs, bien sûr.
J'ai aucun intérêt personnel à ce genre de choses, bien entendu. Et donc, je suis allé vérifier, et effectivement, quand tu tapes Girl Next Door dans Pornhub, YouPorn, Tu Kiffes, etc., tous ces sites que vous connaissez beaucoup mieux que moi, chers amis, eh bien, évidemment, on retrouve des tas de vidéos qui jouent sur ce cliché de manière assez grave. Et parfois aussi de manière assez rigolote, il faut le reconnaître, selon les productions auxquelles on a affaire. Donc tout ça, ça permet ce fantasme aussi d'un personnage qu'on pourrait croiser dans la vie de tous les jours, facilite aussi plusieurs choses, notamment l'identification. Parce que, comme disent certains sexologues, quand ils parlent des fantasmes, ils disent que souvent, on a plus tendance à fantasmer plutôt que sur les vedettes de la télévision ou du cinéma, on fantasme sur les collègues de bureau. Alors Lucas, Laurence, ne me regardez pas comme ça, s'il vous plaît.
Je suis désolée, mais non.
Ah ouais, les gars que tu croises au boulot, toi, c'est pas ça.
Moi, j'ai des collègues féminines et j'ai quelques modèles masculins. Messieurs, excusez-moi, mais non plus.
D'accord. Bon, et donc,
ça, c'est fait.
À l'hôpital Henri Dufaux, ça ne fonctionne pas, mais ailleurs, dans d'autres administrations, peut-être que ça fonctionne. Bridget Jones ne nous contredira pas. Et bref, Laurent, Lucas, s'il vous plaît, Laurence, arrêtez de me regarder comme ça, je ne suis que votre collègue de table et de studio, enfin. Et donc, ça facilite l'identification, évidemment, et ça fait marcher les séries. Alors, tout à l'heure, je parlais des séries dans lesquelles on voit de jeunes ingénues, mais ça marche aussi pour des femmes un peu plus âgées, la société évoluant. Je pense notamment à la série Desperate Housewives, qui racontait ce qu'il se passait un peu dans ces pavillons bourgeois des grandes banlieues américaines, où il se passait parfois des choses un petit peu sulfureuses chez ces jolis quadragénaires qui cachaient bien leur jeu.
Oh oui, surtout Brie, la psychorigide. Moi, je suis fan de Brie.
Moi aussi, mais c'est parce que j'aime beaucoup les fromages, mais...
c'est sexy, hein.
Et donc, l'identification, ça facilite un petit peu ce fantasme, facilite l'identification. Je pense évidemment à ces séries que je viens de citer. Il y a aussi, tout à l'heure, je parlais de Bridget Jones, qui est ce personnage un petit peu plus olé olé, un petit peu plus libéré, pour une raison très simple. Le féminisme est passé par là, il a bien fait, à mon avis. Et du coup, les clichés évolue et se muscle un petit peu. Donc il y a Bridget Jones qui avait fait l'événement il y a quelques années au cinéma avec Renée Zellweger, mais il y a aussi une série que je n'ai pas encore vue, donc je ne peux pas trop en parler, mais je sais qu'elle malmène un petit peu ce fameux cliché de la fille d'à côté. C'est une série qui s'appelle Awkward, qui passe sur Netflix à ma connaissance, voilà. Et il y en a d'autres aussi comme ça. Si vous en connaissez, vous pouvez évidemment en venir en parler sur le Facebook d'Osmose Radio, facebook.com/osmoseradio tout attaché comme dans les donjons SM, oui, et où vous pouvez nous rejoindre pour parler un petit peu de tout ça. Alors je vous parlais de l'identification, on peut aussi parler de ce qu'on trouve autour de nous dans la vraie vie, et évidemment il y a parfois aussi des clichés qui sont peut-être un petit peu plus discutables vu que nos préjugés raciaux et sociaux passent un petit peu par là. Donc il y a la petite blague, il y a aussi le vieux monsieur un petit peu libidineux, etc. Parce que même si on vivant dans le même quartier, on fait peu ou prou partie du même groupe social, eh bien on vient pas forcément du même milieu, et donc il y a tous les arrière-plans religieux, ethniques, etc. qui viennent s'y coller pour des résultats qui se peuvent parfois être retournés à la dérision, et parfois de manière un petit peu plus discutable, les préjugés jouant leur rôle, évidemment parfois un petit peu visant à cloisonner les choses, si j'ai envie de dire. Mais les mœurs évoluent. Et alors quelque chose qui n'évolue pas, c'est qu'on aime bien espionner les voisins. Il y a beaucoup de gens qui l'admettent. Alors les garçons aiment bien espionner leurs voisines, surtout quand elles se déshabillent devant la fenêtre. Mais les filles aiment bien espionner leurs voisines aussi pour savoir ce que fait cette connasse qu'on croise dans l'escalier et qui dit même pas bonjour. Voilà. Enfin bon, chacun ses raisons d'espionner ses voisins. Mais l'espionnage, avec la société d'internet, évolue, et on espionne aussi sur internet avec les webcams, etc. D'ailleurs, certains se prêtent au jeu et font payer la vision de leur webcam. Et donc, du coup, le fait d'espionner, que ce soit dans la vraie vie ou via Internet, des gens du quotidien, finalement, qui portent des sous-vêtements petits bateaux et qui ont la gueule de bois quand ils se réveillent, eh bien, ça continue à entretenir un petit peu ce fantasme, paradoxalement, et à ne pas l'exploiter, ne pas l'épuiser, finalement. Et un autre aspect, quand je dis que les mœurs évoluent, eh bien, c'est que les pratiques sexuelles elles-mêmes évoluent. Je pense notamment à l'échangisme, mais il y en a d'autres. Et bien curieusement, on aime bien aller voir des gens de différents horizons quand on pratique l'échangisme. Ceux, en tout cas dans la majorité des cas, ceux qui en parlent disent qu'effectivement c'est pas des gens du quotidien qu'ils côtoient dans ces moments-là où ils pratiquent ce genre de choses. Et finalement on cloisonne un petit peu, on fantasme sur les voisins, mais on ne veut pas vérifier ce fantasme. Et un peu c'est un petit peu logique d'ailleurs, puisque
oui,
finalement...
Oui, parce que c'est la définition du fantasme aussi, quelque part.
Tout à fait, c'était ma conclusion. Le fantasme n'a pas à être vérifié. Pour qu'il reste fantasme, justement, eh bien, il doit rester dans l'imaginaire. Et donc, les gens qui pratiquent l'échangisme, pour cet exemple que je citais, eh bien, ne vont pas faire ça avec leurs voisins, mais avec des gens un petit peu plus lointains, avec lesquels ils peuvent avoir des relations durables, d'ailleurs, c'est pas la question, mais c'est pas les gens qui vivent juste à côté. Voilà. Donc, après, pour ouvrir un petit peu le sujet, la société évolue, disais-je, les mœurs évoluent, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'urbanisme, il y a aussi l'habitat qui évolue. On voit des gens qui sortent un petit peu de l'égoïsme pavillonnaire dans lequel on a grandi tous quasiment. Et donc il y a des appartements communautaires, il y a des gens qui vivent en colocation parce qu'ils n'ont pas assez de thunes, et aussi des gens qui vivent en quasi-colocation parce qu'ils ont envie d'un autre modèle de vie en commun, sortir de la famille nucléaire avec la papa, la maman, mm-hmm. les enfants, etc. Et finalement, toute cette évolution sociale qui correspond à des nouvelles normes des sociétés dans lesquelles on vit peuvent être amenées à faire évoluer ce fantasme de la petite voisine, du petit voisin, et des choses qu'on aime faire avec eux, mais ça, je vous propose d'en reparler dans une petite dizaine d'années. Voilà, voilà.
Merci Stéphane.
Eh bien, pour faire une petite pause musicale, chers amis, hein, puisque c'est le printemps et que nos hormones s'émoustillent, eh bien, je vous propose d'écouter un groupe que j'ai découvert il y a quelques temps, un heureux hasard sur Internet. Un groupe qui s'appelle les Pleasure Seekers. The Pleasure Seekers, alors déjà, les chercheuses de plaisir, déjà, rien que c'est tout un poème. C'était un groupe de la fin des années 60 à Détroit. Et peut-être qu'elle parle de la petite mort dans, dans le morceau qu'on va écouter ensemble. What a way to die. Quelle façon, quelle charmante façon de mourir en quelque chose, c'était les Pleasure Seekers qu'on écoutait un instant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous êtes toujours sur Osmose Radio, vous êtes dans Erosmose avec Laurence et Stéphane qui vous font l'étalage de leur culture en matière de coquinerie. Et notamment, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet puisque un aspect important de cette émission, c'est la littérature. La littérature, c'est aussi, puisqu'on parlait un petit peu de poésie un petit peu grivoise, en tout cas, les paroles étaient un peu grivoises dans la chanson qu'on écoutait à l'instant, mais on n'a pas attendu le 20e siècle et les années 60 pour ça, puisque Voltaire, notamment, rédigeait déjà des choses dans ce goût-là, il y a fort longtemps.
Et Ovide avant lui, Platon aussi, alors tu vois, ça date pas d'hier, effectivement. Alors, notre copain Voltaire que nous avons étudié à l'école, ça doit vous rappeler quelque chose, Candide, ça te rappelle quelque chose, Stéphane?
Candide, effectivement, ça rejoint un peu le concept d'ingénu dont je parlais tout à l'heure.
Justement, voilà, tu vois. Eh bien, le François-Marie Arouet dit Voltaire, il écrivait aussi des petites choses très sympathiques, dont un petit poème que vous connaissez peut-être. Il est à double voix. Hein. Voltaire s'adresse à une jeune femme et il la fait lui répondre. Et ça dit ceci. « Je cherche un petit bois touffu que vous portez à maintes, qui couvre, s'il n'est pas tondu, un gentil labyrinthe. Tous les mois, on voit quelques fleurs colorer le rivage. Laissez-moi verser quelques pleurs dans ce joli bocage. Allez, monsieur, portez vos pleurs sur un autre rivage. Vous pourriez bien gâter les fleurs de mon joli bocage, car si vous pleuriez tout de bon, des pleurs comme les vôtres pourraient, dans une autre saison, m'en faire verser d'autres. Quoi ? Vous craignez l'événement de l'amoureux mystère ? Vous ne savez donc pas comment on agit à Cythère ? L'amant, modérant sa raison dans cette aimable guerre, sait bien arroser le gazon sans imbiber la terre. Je voudrais bien, mon cher amant, hasarder pour vous plaire, mais dans ce fortuné moment, on ne se connaît guère. l'amour maîtrisant vos désirs, vous ne seriez plus maître de retrancher de nos plaisirs ce qui vous donne à l'être. C'est beau, hein ? C'est coquinou, mais c'est beau quand même.
Il y a des tas de références à l'Antiquité, comme on aimait en le faire à l'époque. D'ailleurs,
je dis, Cithère,
ça parle de Cithère, oui, on pense à l'embarquement à Cithère et au tableau de Watteau, notamment, qui est à peu près contemporain de Voltaire, je crois.
Tout à fait. Bah, Voltaire, c'est 17e, 18e. Hein,
c'est début 17e siècle, c'est ça ? 18e, pardon.
Il est né au 17e, il est mort au 18e. Attends, tu veux que je te dise très exactement ? Parce que quand même, je vérifie toujours. Voltaire, il est né en 1694, donc c'est la fin du 17e. Et il est mort en 1778.
Voilà, nous voilà fixés. C'est marrant que tu parles de Voltaire, tu vois, parce que l'autre jour, j'étais à Paris, au Panthéon, que j'ai visité pour la seconde fois. Et c'est vrai que ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que dans ce temple dédié à la nation, à la gloire de la patrie, tout ça, il y a tous les grands hommes, donc aux grands hommes, la patrie reconnaissante. On pourrait ajouter les grandes femmes aussi, hein, qui ont largement
c'est
leur
vrai.
Part de mérite.
C'est
Bref,
vrai.
Quoi qu'il en soit, c'est vrai que ce soit dans les peintures, les fresques sur les murs, ou que ce soit dans les sculptures qui ornaient un petit peu les différents tombeaux, eh bien, on retrouvait souvent la nudité artistique, la nudité héroïque, qui est un petit peu vantée comme ça, qui permet de souligner un peu la brévitude, ou bien le mérite de tel ou tel artiste. Et moi, ce que j'aime bien, finalement, comme concept, tu rentres plus patriote que tu en es, tu sors plus patriote que tu n'y es entré, en quelque sorte, puisque finalement, je me suis dit quand même, la France, c'est un pays génial. Dans le temple dédié à la nation, eh bien, on trouve des boobs, on trouve des culs, on trouve des femmes à poil, des mecs super bien gaulés, que ce soit en sculpture, en peinture, la France, avec tous ses culs, ses fesses qui s'étalent ainsi dans le temple de la patrie, c'est le meilleur pays du monde.
C'est vrai, et pourtant, on se souvient aussi que le procès retentissant confie à Courbet pour son origine du monde aussi. Hein. Tu te souviens,
on
n'était pas très bien nés encore. On n'était même pas en préparation, mais quand même. Hein, bon, c'est bien de le dire quand même, patriote.
Et je disais les grandes femmes aussi qui ont leur part de mérite, notamment dans les littératures. Et tu vas nous parler incessamment sous peu de la Madame de Sévigné,
mais oui.
Qui était, elle, était plutôt fin 17e, un petit peu
alors,
avant Voltaire.
Alors, c'est ça. Alors, bon, tout le monde connaît la marquise de Sévigné. On la connaît parce que c'est une épistolière célèbre qui adressait quand même des lettres à sa fille. Et puis bon, à l'occasion, si vous passez dans la Drôme provençale, c'est quand même pas très loin, hein, Grignan, le château de Grignan, vous pouvez le visiter. Il y a un festival de la correspondance qui se déroule, je sais pas si c'est pas, j'aurais pu me renseigner, ça doit être dans ces eaux-là, avec Grignan invite aussi des auteurs et c'est plutôt sympathique. Alors moi, je vous ai trouvé un petit poème. Donc, alors l'idée, c'est que on ne sait pas vraiment s'il a été écrit par la fille de la marquise, qui était dite la plus jolie fille de France à l'époque de la marquise. On ne sait pas trop si c'est la fille qui répond à sa mère, puisque sa mère lui envoyait des lettres 3 à 5 fois par semaine. On n'a pas trop vérifié parce qu'il n'y avait pas de poste à l'époque. Mais enfin, le courrier était monumental pour Françoise de Sévigné, la fille de la marquise. On ne sait pas si c'est sa fille qui a répondu.
Enfin, mais bon, finalement, c'est peut-être pas très grave,
pas très grave
non, si on n'a pas la véracité de.
Si on
peut douter de la véracité de cet échange.
C'est sans importance. C'est juste que j'ai perdu, comme d'habitude.
Ben, en fait, c'est marrant que tu parlais de ça tout à l'heure parce qu'effectivement, ça rejoint un petit peu un fameux poème qui aurait été enchangé entre Alfred de Musset et George Sand, dont on avait parlé il y a quelques temps.
Un canular, c'est peut-être un canular, ça n'est pas non plus vérifié. Une ligne sur deux.
Mais je crois que, exactement, si tu lis une ligne sur deux du poème, en fait, ça donne quelque chose de beaucoup moins chaste que quand tu lis toutes les strophes.
Ça, c'était là, oui, parce qu'il y avait la correspondance Alfred de Musset et George Sand, ils ont quand même eu, de toute façon, ils ont eu une relation extrêmement torride.
Tumultueuse et torride. Et donc, on en avait parlé, notamment, je me souviens, pendant le festival.
On la dira quand même parce qu'elle est rigolote, elle est intéressante. Alors c'est peut-être une galéjade qui a été faite. En tous les cas, si c'est une galéjade, elle a été très bien faite, donc ça vaut le coup aussi de. Donc écoutez, moi
revenons-en à Madame de Sévigné.
Alors là c'est on. Je pense, enfin, d'après mes sources, je pense que la réponse, la prétendue réponse de Françoise de Sévigné à sa mère a été écrite par la marquise. Mais comme personne ne peut le vérifier, donc c'est la réponse de Françoise à sa maman, la marquise de Sévigné. Ah, vous dirais-je, maman, à quoi nous passons le temps avec mon cousin Eugène ? Sachez que ce phénomène nous a inventé un jeu auquel nous jouons tous les deux. Il m'emmène dans le bois et me dit « Déshabille-toi ». Quand je suis nue tout entière, il me fait coucher par terre et de peur que je n'aie froid, il vient se coucher sur moi. Puis il me dit d'un ton doux écarte bien tes genoux. Et la chose va vous faire rire, il embrasse ma tirelire. Oh, vous conviendrez, maman, qu'il a des idées, vraiment. Puis il sort, je ne sais d'où, un petit animal très doux, une espèce de rat sans pattes, qu'il me donne et que je flatte. Oh, le joli petit rat. D'ailleurs, il vous le montrera. Et c'est juste à ce moment que le jeu commence vraiment. Eugène prend sa petite bête et la fourre dans une cachette qu'il a trouvée, le farceur. Où vous situez mon honneur? Mais ce petit rat curieux très souvent devient furieux. Voilà qu'il sort et qu'il rentre et qu'il me court dans le ventre. Mon cousin a bien du mal à calmer son animal. Complètement essoufflé, il essaie de le rattraper. Moi, je ris à perdre haleine devant les efforts d'Eugène. Si vous étiez là, maman, vous ririez pareillement. Au bout de quelques instants, le petit rat sort en pleurant. Alors, Eugène qui tremblote le remet dans sa redingote. Et puis, tous deux nous rentrons sagement à la maison. Mon cousin est merveilleux. Il connaît des tas de jeux. Demain soir, sur la carpette, il doit m'apprendre la levrette. Si, vraiment, c'est amusant. Je vous l'apprendrai en rentrant. Voici, ma chère maman, comment je passe mon temps. Vous voyez, je suis très sage. Je fuis tous les bavardages et j'écoute vos leçons. Je ne parle pas aux garçons.
Je fuis tous les bavardages, mais pas tous les badinages.
Elle a écrit bavardage. Donc voilà, on s'amusait aussi beaucoup. Hein, pas croire, il y avait un peu de poudre de riz. Un peu de poudre de riz et pas forcément beaucoup d'hygiène, mais ça n'empêchait pas la gaudriole et l'amusement. Pas vrai, Lucas?
Si on était un petit peu pas trop réfractaire aux odeurs en ce temps-là,
parce que j'adore les odeurs.
Voilà, ouais, l'ambassadeur de Russie qui avait été présenté à Louis XIV et qui pourtant se tenait bien à 4 ou 5 mètres disait qu'il puait comme un bouc. Donc je vous laisse imaginer les mœurs de l'époque. Et bah écoutez, ces charmants jeux qu'on peut faire dans les meules de foin quand c'est la belle saison, existaient déjà au XVIIe et au XVIIIe siècle, mais on peut aussi les envisager aujourd'hui, bien entendu. Et puisque c'est le printemps et que certains d'entre vous pensent à leur corps d'été, hein, ce fameux beach body qu'on travaille un petit peu pour pas trop se taper la honte sur la plage cet été, et qui donc certains d'entre vous se sont peut-être déjà inscrits à la salle de sport. Et bien justement, moi j'ai envie de vous raconter une anecdote que j'ai lue sur Twitter et que Spooky Princess m'a permis de réciter à l'antenne, puisqu'elle raconte une histoire qui lui était arrivée, une histoire assez cocasse qui lui était arrivée il y a quelques années, à l'époque où elle était jeune fille au pair. Alors c'est une fille, enfin à l'époque où je lui demandais son autorisation, son pseudo c'était Spooky Princess. Maintenant elle change de pseudo assez régulièrement, mais vous la retrouverez facilement. Et j'aime bien son Twitter parce qu'elle a vraiment un humour assez salace. Et l'histoire que je vais vous raconter est à l'avenant, et apparemment, bien qu'elle ait sans doute enjolivé un peu, ça a un fond de vérité, ce qui est en fait d'autant plus drôle. Donc je vous raconte ça, et peut-être que vous reconsidérerez à la sortie cette fameux abonnement à la salle de sport. Alors laissez-moi vous raconter. J'ai été jeune fille au pair en Irlande pendant 8 mois quand j'avais 21 ans. Une des plus belles périodes de ma vie, et évidemment là-bas, j'ai rencontré des hommes qui ont fait chavirer mon cœur. En d'autres termes, j'ai pécho, quoi. À l'époque, j'étais jeune, innocente et beaucoup moins en forme. C'est vrai que c'est une fille qui est tout en rondeur, moi je la trouve jolie quand même, mais ça la préoccupe peut-être un peu parfois. Toujours est-il qu'elle était beaucoup moins en forme. Et là-bas, je me suis inscrite à une salle de sport et j'ai rencontré LE putain de beau gosse. Oui, bien évidemment, en temps normal, il ne m'aurait jamais regardé. Mais sauf que, française, en Irlande, petit accent quand je parle anglais, tout ça, tout ça. Bref, tout ça, ça me donne 1531 points de sexitude par rapport aux autres filles. Donc, je rencontre... Exactement. Donc, je rencontre un charmant jeune homme irlandais avec un putain d'accent, hein, je comprenais un mot sur deux. Et il s'appelle Boadar. Demande pas comment ça se prononce, Boadar, je l'ai appelé Beau. En plus, ça fait un jeu de mots puisqu'il était effectivement très beau. Gaulé comme un dieu et un peu trop porté sur la muscu, mais passons. En bonne greluche que j'étais, j'ai craqué direct. Du coup, on discute un peu, enfin on discute. À l'époque, j'étais une brêle. Comme Jacques, PTDR, Jacques Brel. J'étais une brêle et c'était pas glorieux. Mais bon, vu qu'on se plaisait bien, on ne s'attardait pas sur ce genre de détails. Tout mignon, il m'invite à boire un café après le sport. J'accepte et on bavarde tranquillement. Il faut savoir que j'avais peu de temps libre et je devais gérer 4 mômes à la maison et les parents étaient assez stricts sur les sorties. Du coup, je rentre assez tôt. On continue à discuter par SMS, tout ça. On se revoit tous les matins à la salle. On réussit enfin à aller boire un verre un soir de semaine. Caresse sur la joue, baiser, trop romantique. Et la greluche craque trop, évidemment. Mais nos cœurs jeunes, nos cœurs et nos corps, jeunes et frémissants, sont dans l'attente de quelque chose de plus puissant, d'une véritable communion. En d'autres termes, on veut niquer. Du coup, malgré mes horaires et mes sorties assez contrôlées par les parents de la famille où je bosse, j'ai réussi à m'échapper un samedi soir. J'invente un prétexte, en fait, une sortie entre jeunes filles au pair avec nuit à l'auberge de jeunesse à Dublin. Et ça passe crème. Du coup, je pars en mode toute mignonne, mais habillée comme une catin en dessous de mon grand manteau. Je retrouve Beau à Dublin. Il m'emmène au restaurant et je dois avouer que l'attente est quelque peu insoutenable. Arrivé au dessert, j'ai toujours faim. Mais pas de fondant au chocolat, d'autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Il est temps que je parle de zizi et de fesses à ce moment de la chronique, parce que je crois que je commence à vous perdre. Donc, allons-y, nous allons chez lui. Un appartement absolument nickel. Et moi, en meuf chelou que je suis, c'est un truc qui me plaît. Nous laissons enfin libre cours à notre passion. Et là, ça se passe exactement comme dans les films américains pourris que je regardais à l'époque. Baiser passionné, et que je te plaque contre le mur, et que je te dévore le cou, etc. Chaude comme une baraque à frites, la blondasse. Mais il prend le temps, tout ça dure, comme sa bite, MDR. Tout ça dure un long, toujours comme sa bite, PTDR. Tout ça dure un long moment. Bref, à un moment donné, toujours habillé, hein. Enfin, il reste quelques trucs. Nous sommes sur son canapé et je me prends pour une Amazone. Enfin bon, on est encore en train de s'embrasser passionnément et là, il s'arrête tout d'un coup. Il me regarde très sérieusement et me dit « Tu es spécial, Cassandre, et je veux faire quelque chose de spécial avec toi. » Il me prend par la main et m'entraîne dans sa chambre. Il me fait asseoir sur le lit et se dirige vers une grande armoire avec un petit sourire aux lèvres. À ce moment-là, je me dis « Bon, il va me sortir une petite paire de menottes en fourrure léopard. Ou bien, au pire, un petit string léopard. » Que nenni, chers amis ! Quand il a ouvert son armoire, j'ai pu apercevoir l'attirail complet du parfait petit maître sadomaso. À faire pâlir d'envie l'autre connard de Grey et sa petite pouffe d'Anastasia. Menottes et liens, mais surtout cravache, martinet et mort. Des morts, comme en équitation, il a cru que j'étais une putain de jument en fait. Quand il se retourne, sur la tête de ma mère, j'ai cru qu'il allait me torturer pendant 47 jours sans interruption. Du coup, ni une ni deux, je cours dans le salon, je chope mon sac, mes chaussures et mon haut et je cours dans le couloir. Et il me court après, putain. Je remets mon t-shirt à l'envers et je cours pieds nus dans la rue avec la moitié du cul à l'air pour essayer de trouver un taxi et surtout m'éloigner le plus possible de ce cabinet des horreurs. Évidemment, je marche pieds nus, hein. Je marche dans une merde de chien. Du pied gauche, remarque, ça m'a bien porté chance pour la suite. Je m'arrête de courir et je regarde derrière moi. Et qui est-ce que je vois en slip et qui arrive dans ma direction ? Du coup, je me remets à courir en entendant derrière moi « Cassandra, come back, I love you, you're the one !» Il a cru que j'étais l'élu, tu sais. Du coup, enfin un taxi. J'ouvre la portière et je m'engouffre dedans avec mon pied merdeux, mon cul à l'heure et mon t-shirt à l'envers. Et encore comme dans les films, hein, mais cette fois je kiffais moins, je crie « Please, go, go, go !» Et là, je ne sais pas si ce sont les nerfs ou quoi, mais en voyant le regard ahuri du chauffeur dans le rétroviseur, quand il me demande « Comment ça va ?», j'explose de rire et impossible de m'arrêter. Je parviens à lui donner l'adresse de la famille d'accueil et je lui raconte un peu ma soirée. Du coup, on rigole tous les deux et je dois dire que ça me détend un peu. J'arrive enfin à la maison, je suis enfin tranquille. Que nenni, de rechef ! Mes chers amis, je rentre délicatement la clé dans la serrure et j'ouvre tout doucement la porte. Et là, wouh, 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 wouh ! Les parents, pensant que je ne rentrerai pas ce soir-là parce que j'étais censé être à l'auberge de jeunesse avec mes copines, les parents ont branché l'alarme. Je ne connais pas le code, j'entends les gamins qui se mettent à pleurer à l'étage et je vois le père qui débarque en courant en haut de l'escalier, une béquille à la main, prêt à défoncer un voleur. Résultat des courses, j'ai paniqué. En deux mots, j'ai paniqué en un seul mot, j'ai le pied plein de merde, j'ai réveillé le quartier et je me suis pris un serment d'une demi-heure par un daron en pyjama. Avec une béquille dans les mains. Bref, moralité de l'histoire, ne vous inscrivez jamais à la salle de sport.
Bravo, bravo, ça c'est très sympa comme anecdote, vraiment, c'est croustillant, drôle, bien écrit, sympa. Attention les filles, hein, si vous partez au pair en Irlande quand même.
Oui, oui, soyez prudentes. En tout cas, merci à Cassandre de m'avoir laissé raconter ça sur, dans l'émission, et vous pouvez retrouver son compte Twitter, fuckaprince, twitter.com/fuckaprince, et vous pourrez trouver toutes ces petites anecdotes qu'elle vous racontera sans doute beaucoup mieux que moi. Voilà, chers amis. Je vous parlais hein, du beach body, hein, de cette manière qu'on a de vouloir culter son corps avant le printemps, et le printemps ben, qu'on est en train de vivre et qui penche tout doucement vers l'été d'ailleurs. Et ben, les hormones s'émoustillent, et puis comme Cassandre dans cette anecdote qu'elle vient de nous raconter, eh bien on a envie de faire l'amour, de faire des cochoncetés. Ben, c'est un petit peu l'objet du morceau avec lequel on va continuer. Une petite pause musicale avec le groupe de glam rock Kiss, c'est le titre Making Love. Glam rock, c'est la bande sonore idéale du CESC, j'en suis persuadé, et c'est pas Paul Stanley, chanteur du groupe Kiss, qui me contredira. À l'instant, on écoutait Making Love, une très très bonne idée. En ces périodes printanières, Making Love, c'est un extrait de l'album de 77, je crois, Rock'n'Roll Over. Rock'n'Roll Over en anglais, pas les ovaires des dames, puisque justement, à l'instant, on parlait de procréation. Et bah tiens, justement, hein, mon humour et mes calembours pourris suscitent le mécontentement relativement complaisant de Gérard sur Facebook. Et
y a aussi c'est étrange.
Comme c'est bizarre. Et qui nous avait rejoint sur le Facebook d'Osmose Radio. Il y a aussi Catherine et Jocelyne qui sont particulièrement contentes de la façon dont tu déclames les poèmes de Voltaire.
Non, bah écoute,
Eh bien justement, merci à ceux qui nous ont rejoints sur, pendant l'émission, mais l'émission approche de la fin déjà, hein, puisqu'une heure, ça passe assez vite, quelles que soient les choses qu'on fasse. Et par conséquent, là, on arrive un petit peu à la fin de l'émission, et tu avais compilé quelques anecdotes assez croustillantes, Laurence,
alors,
que tu vas nous raconter tout de suite.
Oui, j'ai même une recette éventuellement, un filtre d'amour d'après Nostradamus, ça va pas être facile hein, pour les ingrédients. Mais
Nostradamus
bon,
qui venait de Saint-Rémy-de-Provence d'ailleurs.
C'est vrai.
Comme notre ami Jean-Pierre et son émission de jazz. Y aurait-il un lien entre les deux ? Parce que le jazz, c'est une musique aussi qui invite à l'amour. Mais bon, je vous renvoie vers les podcasts.
Écoute. Alors, par exemple, est-ce que vous savez pourquoi les hommes se masturbaient dans le Nil en Égypte ancienne ?
Parce que Osiris, d'après le mythe, avait été découpé en morceaux par son frère Seth et son épouse Isis avait récupéré tous les morceaux du corps et les avait recousus, un peu comme Frankenstein. Mais elle n'avait pas retrouvé le sexe d'Osiris. Du coup, le sexe d'Osiris est resté dans le Nil. C'est pour ça que le Nil est fécond. C'est ça ?
Alors, c'est une version intéressante. Moi, j'avais pas la même. Moi, on me dit que voilà, il n'était pas tellement obsédé par le sexe qu'il pouvait pas quand même s'empêcher de se tripoter. Hein, mais bon, normal, ça, c'est une activité normale. Mais l'activité agricole dépendait totalement de l'eau apportée par le Nil. Et on pensait que quand le Nil était en crue, c'était grâce au dieu Atum qui se masturbait pour faire pleuvoir. Donc les hommes faisaient comme le dieu en son honneur, histoire de ne pas se taper une sécheresse l'année suivante, parce que voilà.
Et pour les Égyptiens, la pluie, c'était le sperme d'Atum, finalement.
Atum, voilà.
D'accord, moi j'ai toujours...
Ça. Ta version est drôlement jolie aussi. Hein,
d'accord, moi, des fois, quand il y a ces averses chaudes du mois de mai ou du mois de septembre, j'ai parfois l'impression que c'est de la cyprine céleste, en quelque sorte.
C'est vrai.
Moi, je vois plutôt les choses du côté opposé.
Oui, c'est vrai, c'est... Enfin, les pluies de cyprine, quand même.
Ça m'est arrivé, ça peut surprendre.
Les femmes fontaines.
Voilà les femmes fontaines dont tu nous parleras.
Mais on en parlera
une autre fois. Prochaine émission.
Et alors, par exemple, je vais vous dire aussi, parce que là, c'est pour vous, messieurs, en Grèce et en romantique, c'est le petit sexe qui avait la cote. Voilà. Et parce que la fierté...
Ah, je suis mal barré, alors, n'est-ce pas, Lucas,
oui. Hein, attendez, alors je reprends. Si aujourd'hui, la fierté de beaucoup d'hommes est d'avoir une grosse... Ça n'a pas toujours été valorisé par le passé. En Grèce et en romantique, les petits pénis étaient signes de finesse et d'intelligence, alors que les gros représentaient davantage des personnes ridicules et bien trop tournées vers le sexe, justement. C'est notamment pour ça que les statues de l'époque avaient souvent des petits zizi. À l'inverse, on représentait souvent les gros bourrins un peu débiles avec un sexe disproportionné en érection. Aujourd'hui, on a compris que ça n'avait peut-être pas de lien de causalité.
Il y a un détail anatomique, c'est que un gros sexe, il faut être aussi que la dame soit capable de l'accueillir.
Ah, mais
absolument. Et il y a des nanas, enfin moi je sais parce que ça m'a pas fait plaisir sur le coup, mais en même temps je peux comprendre. C'est vrai que j'ai rencontré des femmes qui effectivement avaient eu beaucoup de plaisir avec des garçons qui avaient un sexe assez modeste parce que elles-mêmes étaient leur vagin était proportionné de façon à ce que c'était
ça
de cette manière-là.
Ça peut faire mal quand même. Ça peut faire mal.
Elles prenaient plus de plaisir comme ça. Donc pas de bol pour moi quoi.
Ça se travaille. Faut travailler l'élasticité, c'est ça, ou alors faut mettre du lubrifiant un peu.
Le périnée, ça se travaille chez les hommes et chez les femmes. Voilà.
Alors vous savez comment vous travaillez votre périnée, hein, vous faites du stop pipi, vous contractez là, tu vois, et ça marche très très bien. Bon, oui, vous pouvez travailler, messieurs, ça vous fera pas de mal non plus. Hein. et alors par exemple, les Bachilélés au Congo se partageaient une femme. Alors, les Bachilélés, dans les tribus de cette ethnie...
C'est pas des cannibales, parce que s'ils se partagent une femme...
Non, tu vas voir. Les hommes du même âge et du même village qui ne pouvaient pas se payer une femme seule, ils s'unissaient pour se l'acheter ensemble. Alors, dit comme ça, ça paraît un peu spécial. Et ils pouvaient être beaucoup pour un seul achat. Après, ils la chouchoutaient pendant une période qui allait de 6 mois à 2 ans. Puis, elle en choisissait 5 parmi eux qui devenaient ses vrais maris. En plus de ça, elle pouvait quand même coucher avec d'autres hommes du village dans la forêt si elle le voulait. Les Bachilélés ne le pratiquent plus aujourd'hui, hein, parce que tout se perd, mon pauvre ami, tout se perd.
C'est une observation qui a été faite quand, au 19e siècle ?
C'est récent, c'est une observation récente. Il y a un peu plus d'un siècle.
D'accord, okay. Quand on a colonisé ces continents-là, quoi.
Et alors, j'en ai une dernière, quand même, si vous voulez. J'en avais une très jolie, parce que les mozos en Chine, la femme pouvait accueillir plusieurs hommes par nuit. Et les mozos forment une société matriarcale où les hommes sont beaucoup moins considérés que les femmes, ça arrive. Hein. Chez eux, une femme ne pratique pas le sexe avec des hommes de son village, c'est très mal vu. En tout cas, ça a sûrement commencé pour éviter des problèmes de consanguinité, d'ailleurs. Hein. Mmh. Vers 13 ans, une fille peut commencer à avoir des rapports sexuels. Hein. La nuit, elle laisse sa fenêtre ouverte et les hommes venus d'autres villages peuvent y entrer discrètement pour avoir une relation avec elle. Pendant longtemps, les enfants mozo ne savaient même pas qui était leur père, mais depuis les années 50, à cause de l'administration chinoise, c'est devenu obligatoire. On ne juge pas la culture d'autrui, même quand ça peut paraître un peu... peu chelou, c'est comme ça. Et la dernière, parce que ça me fait plaisir, c'est chez les Inuits en Arctique, un homme peut prêter sa femme à un invité de passage. Et bien sûr, c'est pas juste pour faire dodo l'un contre l'autre. L'invité a le droit de faire zig-zig avec la femme. Ça peut paraître totalement fou de notre point de vue occidental, mais là-bas, c'est totalement normal. Franchement, c'est, au niveau de générosité, on a rarement vu mieux. À savoir aussi que les Inuits peuvent pratiquer l'échange de conjoints pendant une durée limitée. Ça permettrait, entre autres, de renforcer les liens entre les personnes. C'est pas si con.
Donc, finalement, c'est l'échangisme, mais il n'y a pas besoin d'aller au club et de payer l'entrée à 100 euros, c'est ça ?
Absolument, absolument. Qu'est-ce qu'on sent qui kiffe ici ? Moi, j'avais une question existentielle pour mes collègues de travail qui sont en train de regarder à propos des beach bodies et qui sont en train de regarder les maillots de bain. On a toutes flashé sur le trikini avec des bandes. On ne sait même pas comment ça s'enfile, tu vois. Et moi, ma question existentielle, ce n'est pas tellement une fois que tu as trouvé le système pour mettre une bande en zig comme ça, puis une bande en zac comme ça, et puis comme ça. Pour le bronzage, c'est pas terrible, hein, quand même.
T'as les les marques de bronzage, ouais. Ça devient artistique.
Voilà, bon. Sinon, si tu veux, est-ce qu'on peut juste glisser un mot sur le festival ? Si vous ne savez pas où aller, tu vas nous faire... Voilà, juste vous dire que...
Bien entendu, on a des petites choses à vous parler dans l'agenda.
Tu vas nous parler
l'agenda.
Du Festival d'Avignon. Moi, je voulais vous dire que le 25 et 26 août prochain, si vous ne savez pas où aller, vous allez en Côte d'Or, dans un petit village qui s'appelle Bèze. Ça ne s'arrête pas, hein ? Bèze. Et vous allez assister au Festival d'art érotique Eros in Love. C'est à Bèze. Et c'est très joli parce qu'en fait, il y aura une exposition de photographie. Je crois que c'est né à l'initiative d'une photographe. Et la municipalité tout entière de Bèze a participé à l'événement. Parce que puisqu'on s'appelle Bèze, soyons un peu fous. Et donc, il y aura des expositions de photos, des expositions de sculptures. Enfin, ça m'a l'air très, très sérieux. C'est quand même branché sur l'art érotique en général. Et c'est plutôt sympa. C'est à Bèze et c'est le 25 et 26 août. C'est très sympa. En plus, c'est beau la Bourgogne.
Tu n'es pas tout à fait objectif puisque pas c'est ta tout. Région de naissance et au moins à Bèze ils assument un petit peu leur nom un peu grivois,
oui,
contrairement aux habitants de mon cul hein, dans l'Aude. Eh bien voilà, chers amis, on arrive vers la fin de cette émission. Alors c'est marrant tout à l'heure parce que tu parlais de ce poème attribué à la fille de Madame de Sévigné. Eh bien moi je le connaissais déjà pour l'avoir entendu dans un spectacle de cabaret au Festival Off 2017. C'était un spectacle qui s'appelait Confession dans le boudoir et que j'avais reçu justement sur notre plateau d'Osmose Radio pendant le Festival Off. Évidemment vous pouvez retrouver tout ça dans la rubrique podcast du site osmose-radio.fr. Donc voilà, c'était notre troisième et dernière émission pour cette saison radiophonique. Merci Laurence d'avoir apporté ta petite touche littéraire. Merci à Jérémy qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui lui aussi avait participé à l'aventure. Alors on espère vous retrouver la prochaine saison à partir du mois de septembre-octobre, mais de toute manière vous nous retrouverez sans doute toujours au mois de juillet pour un nouveau Festival Off dans lequel on vous parlera un petit peu aussi de choses coquines, hein. Peut-être moins Laurence parce que tu fais le spectacle.
Non, mais je veux
spectacles
bien,
pour
moi, mais enfin, c'est pas trop mon créneau, mais bon, s'il faut parler de choses coquines, si tu tombes malade, ma foi, je parlerai de choses coquines. Mais c'est vrai que c'est davantage ton créneau, oui et non, parce que
on s'est un petit peu réparti les tâches et Jérémy par exemple reçoit un petit peu les têtes d'affiche qu'on voit à la télévision, moi je papillonne un petit peu, je reçois notamment les spectacles de tango ou des petites choses coquines, enfin des choses un peu liées à la sensualité. Toi tu fais le théâtre pour enfants,
voilà,
Jean-Pierre fait les spectacles musicaux et Serge bien entendu papillonne par delà tout ça. Donc on vous donne rendez-vous au mois de juillet, hein, soit qu'on vous croise dans la vraie vie de réel, ou bien qu'on vous retrouve sur internet, et au pire de toute manière, on se retrouve l'an prochain pour de nouvelles émissions d'Erosmos pour une nouvelle saison radiophonique sur Osmose Radio. Merci aussi à Lucas,
le gentil
régisseur de la radio, de nous d'avoir supporté nos sottises pendant ces quelques émissions, et on vous laisse avec la playlist d'Osmose Radio et quelques rediffusions en cours de journée. Nous, on vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, sensuel ou pas, vous faites ce que vous voulez, et on vous dit à bientôt. Salut.
Salut!